Bonsoir, les gilets jaunes sont soutenus par les trois quarts des Français. Emmanuel Macron ne les a pas convaincus. La mobilisation de demain contre les prix des carburants, les hausses de prix promet d'être très suivie. Voici donc l'essentiel de notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro que nous détaillerons dans les informés. Les gilets jaunes, issus de toutes les couches de la société, proviennent en majorité de la France périurbaine et rurale. On porte un gilet jaune car souvent on est accidenté, explique Gérald Darmanin. On peut manifester, mais bloquer le pays n'est pas acceptable, ajoute Édouard Philippe, qui effectuait ce matin une ultime visite de terrain pour tenter de convaincre la classe politique de La République En Marche au parti d'opposition. La classe politique n'a pas vu venir un mouvement parti des réseaux sociaux est devenu incontrôlable. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Virginie Lepetit.
Bonsoir.
Notre partenaire des informés, chef d'édition à Courrier International. Avec nous également, autre partenaire. Bonsoir, Éric de Couty.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, directeur délégué de Marianne. Invité, Éric Delannoy. Bonsoir, Éric Delannoy. Vous êtes de retour, économiste, président, fondateur du cabinet Tensi Conseil. Et un nouveau visage ce soir aux informés de France Info. Bonsoir et bienvenue, Sophie Caillot.
Bonsoir.
Présidente de Allons Enfants, le parti de la jeunesse. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Deux semaines d'explications, pour ne pas dire d'efforts, pour calmer les esprits n'auront donc servi à rien. Les trois quarts des Français, à la veille de la mobilisation des Gilets jaunes, eh bien, soutiennent toujours le mouvement. C'est le principal enseignement de notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, réalisé hier et aujourd'hui sur Internet auprès d'un millier de personnes. Les premières explications avec vous, Gaël Sliman, cofondateur et président d'Odoxa.
Toutes les interventions qui ont eu lieu pour déminer le terrain, et notamment l'intervention du télévisé du chef
on
de l'État,
revenir, ouais.
On va y revenir, n'ont pas convaincu les Français et n'ont pas modifié les choses, puisque on est toujours sur le même étiage de Français, des trois quarts à peu près, qui soutiennent le mouvement. Et à ces personnes qui disent que ce mouvement est justifié, on leur a demandé s'ils comptaient y participer, et ceux qui se montrent les plus fermes, les plus sûrs de leur participation, eh bien ça représente 15% de la population française, ça représenterait beaucoup, beaucoup de gilets jaunes demain, évidemment plusieurs millions sur les routes demain. Alors après, la difficulté qu'il y aura, c'est comment les identifie-t-on, puisque c'est pas un mouvement de manifestation classique où on peut compter des piétons.
Éric de Couty, vous diriez que c'est un soutien massif de la part des Français?
Ah oui, c'est un soutien massif. C'est un mouvement qui a des racines plus profondes. Je crois qu'en fait, les histoires d'augmentation des taxes sur le gasoil, c'est finalement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que c'est un sentiment profond d'exaspération, de lassitude, quelque chose qui vient de loin. Et vous parliez tout à l'heure, et on le voit bien dans votre sondage, que c'est la France rurale et périurbaine qui est la plus affectée et qui est la plus mobilisée, parce que c'est celle qui est le plus touchée immédiatement par les questions d'essence. C'est de gasoil, parce que c'est la France qui utilise sa voiture, à la différence de la France directement citadine. Et puis, c'est une France qui est depuis longtemps à ce sentiment, et on le voit et on l'entend même dans les reportages, le sentiment d'abandon, de lassitude. Et finalement, il y a ce mouvement, parce que c'est extrêmement précis, extrêmement concret, le prix de l'essence qui augmente, et ben finalement qui cristallise cette exaspération. Donc c'est quelque chose de profond, et je comprends aussi, on peut comprendre aussi que les décisions, les mesures présentées par le gouvernement n'ont pas d'impact, parce que c'est de l'écume, et que le mal-être et le malaise, il est plus profond, et c'est la capacité du gouvernement qui aura à traiter ce mal en profondeur dont dépendra des solutions.
Alors,
et c'est pas forcément, ce sera évidemment pas à court terme.
D'accord. Alors, toute première réaction, avec vous aussi, Virginie Lepetit, mouvement qui est quand même parti de la base. Alors, je donne deux, trois chiffres qu'indique le sondage sur le consensus politique. Je lis, les sympathisants de La République en Marche, mis à part, ils sont logiquement contre. De l'extrême gauche, donc consensus, 84% de soutien auprès des Insoumis. À l'extrême droite, 92% auprès du Rassemblement National, le PS 82% et les Républicains 76%. Et pourtant, nous sommes face à un mouvement qui, au fond, ne part pas des formations politiques.
Non, il sera peut-être récupéré par des formations politiques.
Vous pensez-vous ça? Vous pensez qu'il peut être récupéré?
Évidemment, enfin, de toute façon, ça va être ensuite des arguments utilisés et réutilisés par des formations politiques pour contester les programmes du gouvernement. Mais effectivement, c'est la particularité de ce mouvement, et là le gouvernement d'Edouard Philippe va essuyer les plâtres, c'est quelque chose qui s'est complètement passé des corps intermédiaires, qui est né, on va dire, quasiment spontanément, avec la facilité qu'offrent les réseaux sociaux pour ce type de mouvement. Et effectivement, ça brasse large, parce que les automobilistes qui utilisent la voiture non pas comme un luxe, mais vraiment comme un outil au quotidien de travail et de vie, ces automobilistes, ils sont dans tous les partis de droite et de gauche. Donc effectivement, ça brasse très très large.
Éric Delannoy, vous comprenez ce soutien massif, ça brasse très large, dit à l'instant Virginie Lepetit.
Je comprends, je soutiens très large, parce qu'effectivement, il y a finalement assez peu de rationalité. Ça vient de loin, je suis assez d'accord. Je suis par contre très étonné que ce soit les partis comme le Front National ou les Insoumis qui réclament plus de dépenses publiques, donc plus d'impôts, qui soutiennent un mouvement qui émet un ras-le-bol fiscal. Mais ça, c'est inhérent aux incohérences qu'il y a dans l'émotion politique. Ouais. Donc je pense qu'il y a la vraie question, c'est comment on en sort. Un mouvement non structuré, dans lequel il y a peu de rationalité, dans lequel il y a beaucoup d'émotions, c'est compliqué d'en sortir.
Alors on va évoquer tous ces points-là au cours de cette heure avec des informés. Sophie Caillot, la patronne de Allons Enfants, le parti de la jeunesse, met un gilet jaune demain et va se manifester sur la route, se mobiliser ou pas?
Alors moi non, parce que je pense que l'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui vaut d'augmenter des taxes peut-être d'une certaine façon, même si c'est sans doute pas la meilleure façon pour y répondre. Et je pense que là où le gouvernement a très mal anticipé tout ce mouvement, c'est qu'ils n'ont pas pensé à inciter d'abord les personnes à adopter des comportements différents vis-à-vis de la politique énergétique.
Oui, vous trouvez que c'est hausse de carburant
et voilà,
trop tôt, quoi.
Et surtout, enfin, c'était vraiment pédagogiquement très très mal expliqué, ce qui fait que les personnes n'ont juste pas compris. Et il aurait fallu que tout ça soit beaucoup mieux expliqué, et surtout qu'on commence par inciter à changer les comportements plutôt que punir et envoyer ce signal de impôt tout de suite.
Allez, on poursuit sur cette idée, 20h10. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Romain Desec.
Le verdict est tombé pour Michel Fourniret. Il est condamné à la perpétuité par la cour d'assises de Versailles, reconnu coupable de l'assassinat de Farida Amij, tuée afin de récupérer le trésor du gang des postiches. C'était en 88. Son ex-femme Monique Olivier est condamnée à 20 ans de prison pour complicité. La cour retient le fait qu'elle n'avait pas d'antécédent judiciaire au moment des faits. Autre verdict, celui des assises de la Corrèze. Les jurés condamnent la mère de la petite Serena à 2 ans de prison ferme, plus 3 avec sursis. Pendant 2 ans, elle avait dissimulé sa fille, l'isolant de tous, qui avait entraîné de lourds handicaps irréversibles. La peine est aménageable, selon la présidente de la Cour. La mobilisation sera-t-elle aussi importante qu'annoncée? Les Gilets jaunes manifestent demain sur les routes de France. Manifester oui, bloquer non, martèle le Premier ministre Édouard Philippe. Un sondage au Doxa d'Enso Consulting pour France Info et Le Figaro montre que le mouvement est soutenu par près de 3/4 des Français. Au Royaume-Uni, Theresa May nomme un eurosceptique au poste de ministre du Brexit, Stephen Barclay. Il succède au démissionnaire Dominic Raab. La première ministre envoie un signal à son camp alors que la menace d'une motion de censure à son encontre est de plus en plus forte. Le foot et l'équipe de France qui n'a besoin que d'un point ce soir face aux Pays-Bas pour accéder au tableau final de la Ligue des Nations. Le coup d'envoi, c'est à 20h45.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Qui sont les gilets jaunes qui manifestent demain? La question est posée depuis de si longues semaines. Notre sondage apporte quelques solides éléments de réponse, vous allez le voir. Tout d'abord, voici, pour se mettre en jambes, si je puis dire, ces deux témoignages parmi tant d'autres, un motard et un automobiliste. Écoutez bien.
Ils me convainquent jamais. Voilà. Pour mon travail, je dois payer combien de plus pour aller-retour à mon chantier.
Vous allez bloquer la route?
Bien sûr, je serai solidaire comme j'espère la plupart des Français, pour faire comprendre qu'on n'est pas que des vaches à lait et qu'il y en a marre de payer.
Voilà pour ces témoignages. On en a entendu beaucoup ces derniers jours. Hein. L'enquête nous dit la chose suivante. Les gilets jaunes sont issus de toutes les CSP de tous les territoires, mais ils sont particulièrement surreprésentés au sein d'une France rurale et périurbaine, de jeunes actifs, de catégories populaires. Éric de Couty, ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Il y a une France qui se dessine à travers ce mécontentement et cette mobilisation de demain.
Elle illustre, mais c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Et sans faire référence à Guilly dans ses travaux qui sont anciens, la France périphérique, on voit bien qu'il y a une France. Il suffit d'aller se promener, d'ailleurs. Hein. Nous, on est, en tous les cas, je parle pour moi, on est dans nos villes. Mais quand on va dans les campagnes, moi, je vais régulièrement en Limousin, qui est un territoire abandonné, en fait, en quelque sorte, où vous n'avez pas de transport en commun, où vous n'avez quasiment plus de lignes SNCF, en tous les cas, des lignes de bus, où la voiture est un élément essentiel. Et il y a ce sentiment des collectivités locales qui sont exsangues, parce qu'on pourrait rajouter le mouvement le Grogne des Mers, qu'on voit extrêmement puissamment se développer. Donc, cette France-là, elle a le sentiment, qui n'est plus qu'un sentiment, qui est une réalité d'abandon depuis longtemps. Et moi, il y a une chose que je remarque dans ces différents témoignages, ceux que vous avez montrés, mais qu'on entend régulièrement, c'est cette France, ces citoyens qui n'adhèrent plus à l'impôt. En tous les cas, qui ne voient plus la pertinence de l'impôt. Et ça me semble quelque chose d'extrêmement grave. Parce que non seulement il y a le rejet, mais ils ne comprennent plus. Et vous parliez tout à l'heure de pédagogie. Je pense que ça ne fait pas simplement référence à ce gouvernement-là. C'est les gouvernements depuis bien longtemps. Il y a une population qui aujourd'hui ne comprend plus, n'adhère plus à l'impôt. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave pour les temps qui vont venir.
On va évoquer cet aspect des choses, hein, sur la fiscalité. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu les années 50. Hein, le poujadisme part également de ce refus du fisc. Un mot avec vous, Sophie Caillot. Les jeunes, aujourd'hui, se sentent impliqués, concernés par ce qui se passe, par cette espèce de mouvement de fond?
Alors, ce que je ressens, en tout cas, déjà, j'ai pas prétention à représenter la jeunesse.
Votre parti s'appelle Allons Enfants de la jeunesse.
On veut donner une voix à la jeunesse, mais je représente pas la jeunesse.
Absolument,
j'aurais pas cette prétention. Mais ce que je ressens clairement, c'est que dans ma génération et les générations qui m'entourent, on est conscient qu'il y a une situation très problématique au niveau du climat et que il faut y remédier maintenant parce que les personnes qui prennent les décisions depuis des années peuvent se permettre de repousser l'échéance puisqu'elles subiront pas forcément les conséquences elles-mêmes des décisions qu'elles prennent. Donc c'est vraiment à notre génération de donner le coup d'alarme en disant que maintenant il faut prendre les choses en main et faire changer toute cette situation climatique qui nous inquiète. Ensuite, il y a évidemment parmi les jeunes comme parmi toute la population, ouais, une jeunesse citadine qui est pour laquelle c'est facile, entre guillemets, de dire oui, on va taxer, il faut, voilà. Donc, ça, on le sait bien, on en est conscient. Et il y a aussi une jeunesse qui habite à la campagne et qui subit les conséquences de ces augmentations de taxes. Donc, dans la jeunesse, on retrouve les mêmes préoccupations que parmi l'ensemble de la population.
Éric Delannoy, pour rebondir sur ce que disait Éric de Couty, un refus de l'impôt aujourd'hui, un ras-le-bol fiscal?
En fait, moi, je crois pas à ce ras-le-bol fiscal pour deux raisons.
Pas d'accord.
Non, mais si, parce qu'en fait, je suis d'accord sur le fait que les racines sont bien plus profondes que ça et qu'il y a effectivement un sentiment d'abandon, beaucoup plus qu'un ras-le-bol fiscal. Il faut quand même voir que la France, qui est concernée par ces mesures, en tout cas qui essaie de mettre le gilet jaune, ce sont en général ceux qui bénéficient le plus de la redistribution du modèle social français, paradoxalement. Donc le ras-le-bol fiscal,
vous trouvez,
ben, 50% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. On pourrait faire un sondage, je ne suis pas convaincu aujourd'hui que la majorité des gilets jaunes payent l'impôt sur le revenu. En revanche, je suis d'accord avec...
Toutes les CSP sont représentées.
Hein, toutes les CSP sont représentées, mais quand même, regardons quand même, quand on parle de ras-le-bol fiscal, ce qui est en train de se passer. L'OFCE, c'est pas le gouvernement qui le dit, c'est l'OFCE, dit qu'en 2019, la fiscalité va baisser. D'accord. Quand on regarde le package global de la fiscalité, ça va baisser. Et pourtant, on parle de matraquage fiscal. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas audible. Et c'est pas audible parce qu'effectivement, ce n'est pas un problème de consentement à l'impôt, de mon point de vue. C'est un problème de lisibilité de la contrepartie à l'impôt.
D'explication.
Pardon.
D'explication gouvernementale, vous voulez dire de.
Mais il y a peut-être un aspect pédagogique. Non, mais... Ça, c'est sûr qu'il y a probablement un aspect pédagogique. Néanmoins, aujourd'hui, on peut faire la liste. On peut faire la liste d'abord pour dire que. Si, alors, je vais passer pour le méchant petit canard autour de cette table.
Non,
mais
allez-y,
objectivement, l'essence n'est pas plus chère qu'il y a 20 ans. Hein. Faut quand même rappeler qu'une heure de SMIC travaillée aujourd'hui permet d'acheter aujourd'hui 6 litres d'essence. Il y a 30 ans, ça permettait d'acheter 3 litres d'essence. Donc ça, faut quand même le garder. Les 30 ans, c'était la fin des 30 glorieuses, hein.
Peut-être que la situation économique et sociale était un peu moins abîmée qu'aujourd'hui.
Mais
il y avait moins d'inquiétude. Il y avait peut-être plus de possibilités pour les citoyens de se sortir de
cette
situation.
Non, mais on peut quand même.
En revanche, il y a 30 ans, un ouvrier. Virginie Lepetit. Un ouvrier pour arriver au niveau d'un cadre supérieur avait 33 ans. Aujourd'hui, c'est 166 ans. Le délai pour un
166,
ouvrier.
On a le temps donc.
Donc et l'écart social s'est creusé. Et là, cette année, on est dans un système où peut-être que l'essence ne coûte pas plus cher qu'il y a 30 ans. En revanche, il y a eu une inflation sur des produits de base. Et le ressenti, c'est que les choix ne sont plus possibles. C'est-à-dire que entre la part du budget allouée au logement, la part du budget allouée à l'alimentation et la part du budget désormais allouée à l'essence, il n'y a plus de choix possible. Et c'est ressenti comme une forte contrainte. Même si, peut-être que, effectivement, ça n'a pas augmenté depuis 30 ans. Mais c'est important. C'est ce ressenti-là qui nourrit cette contestation.
Éric de Couty, le matraquage fiscal, apparemment, Éric Delannoy n'est pas tout à fait d'accord. C'est une question d'appréciation, donc de ressenti, où il y a une réalité.
Il y a une réalité. Deux choses. D'abord, c'est une question de pouvoir d'achat. Quand vous parlez, c'est une question de pouvoir d'achat.
Absolument.
Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est que, même si l'essence, moi, je n'ai pas les chiffres que vous avez sur l'essence qui serait pas plus chère aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais en tous les cas, le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui et de ces catégories a diminué. Donc ça, c'est une réalité. Après, sur le ras-le-bol fiscal, j'aime pas trop l'expression du ras-le-bol fiscal. C'est simplement, je crois, cette idée que un certain nombre de Français ne comprennent plus la question du rapport à la pertinence de l'impôt. C'est qu'ils ne voient pas la pertinence de l'impôt. Vous parliez tout à l'heure de la question climatique. Je ne suis pas certain, je n'ai pas fait d'études, mais que les gilets jaunes aujourd'hui sont des dangereux, des gens qui n'ont rien, qui se moquent du réchauffement climatique. Je crois que c'est pas la question. Mais s'ils ne comprennent pas, juste un mot, ils ne voient pas l'intérêt, ils ne voient pas en quoi cette somme d'argent qu'ils vont devoir verser pour faire tourner leur voiture va être utile à lutter contre le réchauffement climatique.
La compréhension. Parce que pour prolonger ce que vous dites, Sophie Caillot, ce qui se bâtit, ce qui se décide aujourd'hui, c'est le monde demain, c'est le vôtre.
Oui, et je pense que justement, la jeunesse, je disais, est consciente de cette urgence, mais je pense que ce qui est dommage, en fait, qui résulte de toute cette affaire, c'est que l'urgence climatique est vue maintenant négativement par l'ensemble des Français. Alors que avant l'histoire des gilets jaunes, avant l'augmentation et l'annonce de l'augmentation de la taxe sur les carburants, je pense que globalement, la majorité de la population était contente, était d'accord pour changer les pratiques climatiques.
Vous pensez que ça aurait été en train de changer négativement?
Je pense qu'en annonçant, en premier lieu, qu'on allait augmenter la fiscalité, le gouvernement a fait basculer cette idée et maintenant, la pierre à la politique climatique.
Allez, il en va peut-être de ce qu'on appelait tout à l'heure la pédagogie gouvernementale. On va l'évoquer dans un instant, 20h20 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info, le retour de Romain Desecq.
La perpétuité, une nouvelle fois pour Michel Fourniret, cette fois pour l'assassinat de Farida Amiche en 1988. Son ex-femme Monique Olivier est condamnée à 20 ans pour complicité. Le couple avait planifié le meurtre afin de dérober le trésor du gang des postiches. Une majorité de Français soutiennent les gilets jaunes, 74% très exactement, selon un sondage Odoxa Denso Consulting pour France Info et Le Figaro. Près de 7 personnes interrogées sur 10 affirment que le président de la République n'a pas été convaincant lors de son interview télévisée mercredi soir. On ne peut quasiment plus respirer à San Francisco aux États-Unis. Les autorités ont lancé une alerte à la pollution de l'air à cause du gigantesque incendie qui frappe la Californie. 63 morts, 600 personnes disparues, dernier bilan. Donald Trump doit se rendre sur place demain. Plus de 150 kilos de cocaïne saisie à Nogent-sur-Oise lors d'un contrôle routier sur l'autoroute A1. C'était mercredi, annonce de la direction des douanes d'Amiens. La drogue était caché dans un camion slovène, valeur de la saisie plus de 13 millions d'euros. La route du Rhum est toujours autant de péripéties, cette fois chez les Imoca. Le Britannique Alex Thompson était en tête à quelques milles de l'arrivée, mais il s'est endormi et a percuté une falaise. Il a utilisé son moteur pour s'en sortir, conséquence une pénalité de 24 heures. C'est donc Paul Meya qui devrait l'emporter dans cette catégorie. Il doit passer la ligne peu après minuit.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Pourquoi l'exécutif n'est-il pas parvenu à convaincre, à calmer la colère et à convaincre l'opinion? La question est posée par notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Il y a eu pourtant la double intervention. Mercredi, les annonces du Premier ministre le matin sur RTL, puis l'interview présidentielle à bord du porte-avions Charles de Gaulle à 20h sur le journal de TF1. Emmanuel Macron a tenté une opération vérité.
Il y a de l'impatience, mais il y a de la colère. Et cette colère, je la partage. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants.
Voilà, j'oublie l'essentiel, hein. 68% des Français ne l'ont pas trouvé convaincant, Virginie Le Petit, malgré cette opération de communication assez spectaculaire, il faut le reconnaître.
Oui, bah oui, il part de loin aussi, hein. faut quand même le reconnaître aussi. Il est quand même.
C'était pas simple.
Bah, il a mis une distance avec les Français sur la première année du quinquennat qui est quand même immense. Et là, il va falloir rattraper toute cette distance. Mais à la décharge d'Emmanuel Macron et du gouvernement, les sujets environnement, ce sont des sujets sur lesquels il est très très difficile d'être pédagogue et d'être compris, notamment parce qu'on parle de très long terme. Et il y a eu un exemple qui est assez révélateur. Avant le système des quotas de CO2, il y a eu un système de quotas instauré qui a très très bien marché, celui-là. C'était sur le dioxyde de soufre, ce qui provoquait dans le nord de l'Amérique toutes les pluies acides, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a instauré des quotas sur les raffineries, les usines chimiques, etc. Donc c'est les industriels plus que les populations, mais qui rechignent hein, quand même avec des systèmes d'impôts, bien sûr, de fiscalité. La seule différence, c'est que là, et c'est très rare dans les perspectives environnementales, en 2 ans, il n'y avait plus de pluie acide. Là, c'est simple de faire comprendre parce que c'est concret et immédiat. Malheureusement, pour tout ce qui concerne l'écologie, les effets positifs ne se font ressentir que globalement et à très long terme. Et c'est très difficile de faire de la pédagogie là-dessus parce que si l'intellect le comprend, l'assimiler dans sa vie quotidienne, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, vous rejoignez en ce sens que disait tout à l'heure Sophie Caillot, hein, sur l'exigence de transition écologique. Un mot, Sophie, quand vous voyez ce président, vous entendez ce président dire « je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants », qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
Alors déjà, je tiens à saluer la mise en scène, parce qu'avec le bruit des machines derrière, c'est quand même assez génial. Voilà, le rafale derrière, il a mis la totale. Et je trouve que cette phrase, elle est bien dite, comme à chaque fois avec Emmanuel Macron, il a des très jolis mots et on voit qu'il essaye de s'excuser d'une manière ou d'une autre. On a beaucoup dit que c'était son mea culpa, mais d'un côté, justement, cette mise en scène fait que ça sonne un peu faux et on se demande, maintenant, quand est-ce qu'on fait vraiment changer les choses dans ce cas-là ?
Éric de Couty, oui. Vous partagez ce point de vue de Sophie Caillot ?
Pas tout à fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette formule. Alors on dit oui, mais à culpa, un constat, mais la responsabilité du chef de l'État, elle est énorme. C'est-à-dire que on en a parlé, je crois, en début d'émission. On le voit bien. Ce mouvement l'illustre, c'est l'affaiblissement, pour pas dire la disparition des corps intermédiaires. Et celui qui emporte une responsabilité, évidemment pas tout seul, mais qui emporte depuis qu'il est arrivé au pouvoir une responsabilité considérable, c'est lui. On voit bien qu'aujourd'hui les corps intermédiaires sont complètement disparus. Vous avez parlé tout à l'heure des politiques qui allaient récupérer, mais qui vont courir après ce mouvement. Et le mouvement des Gilets jaunes, il illustre en partie cette disparition des corps intermédiaires. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve que ça illustre aussi votre sondage, la perte de crédit, et ça c'est extrêmement profond, du président de la République aujourd'hui. Parce que quand on regarde attentivement votre sondage, on voit que les Français, les mesures qui ont été annoncées, ils les trouvent plutôt convaincantes, oui. Et plutôt bien. Mais ils trouvent que le président de la République n'a pas été convaincant, lui. Donc c'est, je crois, aujourd'hui, son propos, sa personne, et aussi son mode de gouvernance, aujourd'hui qui est remis en cause. Et on est au bout de même pas 2 ans de mandat. Donc on part de loin, vous l'avez dit, et je pense que ça va être très compliqué pour lui aujourd'hui, à retrouver, évidemment rien n'est joué, mais à retrouver cette crédibilité qui aujourd'hui me semble très 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 altérée.
Éric Delannoy, que répondez-vous aux arguments qui sont assez convaincants d'Éric Delannoy et au scepticisme également de Sophie Caillot ?
Non mais je réponds ce que je réponds depuis qu'il est élu, c'est-à-dire qu'en gros, Emmanuel Macron, il se fait taper dessus depuis qu'il est élu, simplement parce qu'il a remis en cause un système politique, une manière de faire la politique, effectivement avec quelques erreurs.
C'est ce qu'il se disait aussi concernant Nicolas Sarkozy, souvenez-vous.
Mais Nicolas Sarkozy, il a renoncé à mettre en place son programme. Alors il va dire après que c'était la crise, ça a généré 600 milliards de dettes, mais est-ce qu'on veut une fois de plus que le président qui a été élu sur un programme renonce à son programme sous prétexte qu'il ne répond pas à la grogne des Français ? À un moment, je veux dire, il faut quand même faire en en sorte de, d'agir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déplore tout ce qui se passe, etc. Emmanuel Macron, de toute façon, je vais vous dire, regardez l'histoire depuis un an et demi, il ne fait jamais rien de bien quand on écoute les commentateurs politiques. Jamais. Regardez-le. C'est symptomatique. Donc après, on va s'étonner qu'il n'écoute pas. Mais je veux dire, à un moment, il faut faire en sorte de regarder qu'il y a une action qui doit être faite, et cette action, elle est cohérente. Allez. Elle est mal véhiculée, mais elle est cohérente.
Allez, on poursuit dans un instant après la météo, après le rappel de l'info sur ce qui va se passer demain. Je vous signale que cette enquête Odoxa Dentsu Consulting, vous pouvez la consulter en ligne sur le site franceinfo.fr. À tout à l'heure.
Pour moi, le VIE est signe de réussite. Je dirige la branche Asie d'une marque d'artisanat français de luxe et j'ai choisi Samia en VIE au poste de responsable marketing, qui n'est pas pour rien dans nos derniers chiffres.
Merci. Oui, après mon école de commerce, je voulais faire mes preuves. Et c'est super car... Pas maintenant, je suis en interview.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Avec Business France, sourcez vos futurs collaborateurs pour votre développement à l'étranger. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin. France Info Météo, avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac de Météo France.
Un week-end ensoleillé au nord et plus mitigé au sud. Demain, entre la Méditerranée, Rhône-Alpes et l'Auvergne, beaucoup de nuages, de la pluie, de la neige vers 1000-1200 mètres sur les Alpes frontalières et les Cévennes. Ça n'empêchera pas quelques rayons de soleil de temps en temps. La Côte d'Azur sera mieux lotie avec du soleil toute la journée. Le vent atteindra les 70 km à l'heure sur le littoral. Ailleurs, on aura du soleil, alors il faudra parfois attendre que la grisaille se dissipe. Ce sera le cas entre la Bretagne, Poitou-Charentes, le centre, le Val-de-Saône. Le vent d'Est sera désagréable sur la moitié nord. Les températures baisseront autour de petites gelées sur le nord-est, mais il fera encore 7 à 12 degrés près de l'océan, de la Méditerranée. L'après-midi, 8 degrés à Dijon, 9 à Lille et Nancy, 10 à Paris, Lyon, 12 à Rennes, 16 degrés à Nice, 18 à Montauban, 19 pour Biarritz. Dimanche, il fera un peu plus frais. On aura des nuages au sud de la Garonne, de la pluie sur le Roussillon, mais du soleil ailleurs.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Veillée d'armes pour les gilets jaunes à la veille donc de leur opération contre la hausse des prix, des carburants, des blocages de routes, de stations-service, de centres commerciaux sont prévus demain dans toute la France. L'ampleur du mouvement reste la grande inconnue. Cet après-midi, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est exprimé sur le sujet lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis avec ce message. Oui aux manifestations, mais non au blocage. Laurent Nunez.
Le droit de manifester est un droit qui est important, qui est constitutionnellement garanti, mais tout comme le sont d'autres droits, dont celui d'aller et de venir, dont celui de circuler librement. Donc demain, nous allons veiller à ce que ces deux libertés fondamentales puissent s'exprimer et que l'une ne vienne pas compromettre l'autre. Donc nous serons bien évidemment attentifs à tout blocage total, ce qui nous conduira bien évidemment à intervenir. Une manifestation, normalement, elle doit être déclarée, surtout pour être encadrée et éviter qu'il y ait des débordements. Donc ce qui compte et ce qui sera important demain, c'est qu'il n'y ait pas de blocage total de la circulation. À ce moment-là, ce sera illégal. On rentre dans le champ d'un certain nombre d'infractions pénales, comme le délit d'entrave. On sera attentif au risque de blocage, au risque d'infiltration. Voilà. Nous abordons cette journée de manière très sereine et très concentrée.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Pour l'instant, 1500 actions de blocage sont attendues dans l'ensemble du pays, mais seulement une peu plus d'une petite centaine aurait été déclarée. Et puis parmi les réactions, celle de Martine Aubry, la maire socialiste de Lille, dit comprendre le mouvement des Gilets jaunes, critiquant vivement au passage l'injustice sociale, fiscale et écologique du gouvernement. Michel Fourniret, à nouveau condamné à la prison à perpétuité, cette fois pour l'assassinat de Farida Hamish en 1988, afin de lui dérober le trésor du gang des Postiches, 20 kilos d'or. Son ex-épouse Monique Olivier écope, elle, de 20 ans de prison pour complicité. Plus de 450 kilos de cocaïne saisis par les douaniers de l'Oise. Ça s'est passé lors d'un contrôle sur l'autoroute A1. Les pains de drogue se trouvaient dans la remorque d'un ensemble routier frigorifique immatriculé en Slovénie. La drogue était dissimulée au milieu de cartons de céramique. Valeur à la revente, 13 millions d'euros. Le chauffeur, un Serbe, a été arrêté. En raison de la baisse des ventes de voitures diesel, le groupe japonais Ibiden va fermer son usine de filtre à particules de Courtenay dans le Loiret. 300 emplois sont menacés. Il y a 2 ans déjà, l'usine avait échappé de peu à une délocalisation de sa production vers la Hongrie sous la pression du personnel. En Californie, les autorités de San Francisco lancent une alerte à la pollution de l'air provoquée par les fumées de l'incendie géant qui fait rage depuis une semaine maintenant dans le nord de l'État. Les flammes ont fait 63 morts et plus de 600 disparus d'après le dernier pointage. Il est 20h33 sur France Info. Les informer, suite et fin.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International, avec Éric Descouty, directeur délégué de Marianne, Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing Conseil, et Sophie Caillot, nouveau visage, présidente de Allons Enfants, le parti de la jeunesse. Avant de revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être, Éric Descouty, vous aviez une petite réponse à porter aux propos tout à l'heure d'Éric Delannoy.
Oui, parce que, sauf votre respect, je trouve que c'est un peu court, c'est un peu se payer de mots de dire que oui, il veut, c'est le nouveau monde, c'est changer la politique, mais concrètement, le réel, c'est est-ce que une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie qui fonctionne sans corps intermédiaire? Est-ce que ce changer le monde politique, c'est fonctionner comme on fonctionne ce pouvoir-là? Les corps intermédiaires, ils n'existent plus, on le voit bien dans les négociations sociales, les syndicats n'ont jamais été aussi faibles, il y a un Parlement qui fonctionne mal, où on a aujourd'hui l'impression que une majorité n'a jamais été aussi godillotte. Donc, est-ce que c'est ça, changer la politique? Est-ce que c'est ça, le nouveau monde? Et quels incroyable. Sont les résultats? Donc, moi, je veux bien, je suis, et même j'ai applaudi à l'époque où on a dit le nouveau monde, ce monde politique,
allez,
il est
répondez.
Vieux, il faut changer.
Non, mais on pourrait en discuter longtemps.
Répondez, Éric Delannoy.
Non, mais enfin, moi, quand j'entends dire que le parti de LREM, c'est un parti de godillot, alors qu'après, on va dire que on ne le maîtrise pas à tel point qu'il y en a qui partent. Enfin, donc, un jour, on dit tout, et l'autre jour, on dit son contraire. Il se trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Macron bashing est devenu un sport national et que ce à quoi il est en train de faire face, c'est un déclassement depuis 30 ans de la population française qui a très bien été décrit par Christophe Guillouis dans la France périphérique et c'est pas en un an et demi qu'il va le résoudre. Et à partir de ce moment-là, si le fait qu'on cherche à avoir une revanche par rapport au fait qu'il a ringardisé l'intégralité des partis politiques, peut-être que sur les corps intermédiaires il y a des choses à dire. Alors, mais néanmoins, peut-être. Sur les corps intermédiaires, ils ne jouent pas non plus tous leur rôle. Regardez un petit peu ce qui s'est passé avec la taxe d'habitation. On pourrait citer un autre exemple qui sont sur la protection de l'enfance. Il y a quand même des choses qui se passent de manière dramatique dans la démocratie d'aujourd'hui. C'est qu'on ne joue pas l'intérêt du pays.
Sophie Caillot, arbitrer ce duel d'Éric, il y a du Macron bashing, il n'y a plus de corps intermédiaires. Comment est-ce que vous voyez ça, vous?
Alors, il y a peut-être du Macron bashing, mais en revanche, là où je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, Delannoy, c'est que il ne vient pas. Vous dites qu'il a été. Il y a du Macron bashing parce qu'il a osé remettre en cause le système. Alors oui, il l'a peut-être remis en cause pendant sa campagne, mais l'existence même du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui montre que les Français ne sont pas d'accord avec la façon de gouverner d'Emmanuel Macron parce qu'il n'a rien changé, au final.
Je pense que c'est une goutte qui a été fait déborder le vase.
Virginie Lepetit, là-dessus, sur cette espèce de lecture finalement très opposée de ce qui se passe aujourd'hui.
Non, mais la réalité, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron a hérité d'une France qui n'était quand même pas très en forme. Ça, c'est indéniable. Le déclassement, effectivement, de la France périphérique, c'est pas lui qui l'a provoqué, c'est certain. Et moi, j'ajouterais que les corps intermédiaires étaient déjà bien affaiblis avant ce quinquennat. Il a pas fait grand-chose pour y remédier, ça c'est sûr, mais ils étaient déjà dans une mauvaise posture. Enfin, il suffit de voir les participations aux élections professionnelles, par exemple, pour s'en convaincre. Mais il n'a pas réussi à inverser tout ça, pour le moment.
Oui.
Voilà. Donc
notamment à réconcilier le peuple français ses dirigeants. Voilà.
Voilà.
Ouais. Alors. Le Premier ministre, lui, pendant ce temps, était en déplacement dans l'Essonne. C'est un peu l'homme à tout faire, Jean-Philippe. Et il a réitéré ce matin la mise en garde du gouvernement. Blocage interdit. Demain, on écoute Édouard Philippe.
On peut manifester, mais bloquer un pays, alors que des services d'urgence peuvent avoir besoin de circuler, alors que tout un chacun peut avoir besoin de circuler demain, n'est évidemment pas acceptable. Nous serons avec le ministre de l'Intérieur, avec l'ensemble du gouvernement, avec l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, extrêmement vigilants, respectueux bien entendu des libertés, mais soucieux de garantir un haut niveau de sécurité à nos compatriotes.
Éric de Couty, est-ce qu'il y a une question de sécurité basique ?
Oui, il y a une question de sécurité forcément, parce que c'est un mouvement, et ça va être très compliqué pour le ministre de l'Intérieur et pour les préfets, parce que c'est un mouvement qui est assez inédit, parce qu'il est totalement déstructuré, désorganisé. Alors on parlait de corps intermédiaire, mais il n'y a pas de... Alors vous l'avez dit, on l'a tous dit, il est parti à travers les réseaux sociaux, il est parti, on ne sait pas trop comment, et comment il s'est développé. Et en tous les cas, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas d'interlocuteur, ça va être un problème pour le gouvernement quand il va falloir discuter. Là aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur, et au niveau local, pour organiser la sécurité. Donc, est-ce qu'il y a des risques de débordement ? Potentiellement, oui, parce que c'est un mouvement que personne ne contrôle, ne maîtrise, n'a d'interlocuteur. Donc, il y a un risque, oui.
Tout à l'heure, il était question de 15% hein, de d'acceptation ou de soutien, voire même d'envie d'y aller demain des Français. C'est le sondage Odoxa Dentsu Consulting. Si mon calcul est bon, 15% de 60 millions. Bon, on va pas commencer à compter, ça fait 9 millions. Virginie Le Petit, quelle est la jauge pour considérer un tel mouvement, je dirais, réussi?
Ça ferait un peu moins parce que c'est les plus de 18 ans. Donc
c'est un mauvais calcul, mais j'ai jamais excellé là-dedans.
La jauge pour... peut-être c'est ce que ce mouvement réussira à obtenir. Ça sera déjà une certaine jauge, ce qu'il a déjà obtenu d'ailleurs. Mais ensuite, oui, il va être très très difficile de compter les participants. Ça dépendra aussi certainement de la météo. Je suis désolée, mais
oui,
souvent les grands mouvements
micro,
sociaux,
les gilets jaunes ou les cirés jaunes, hein,
bien
bleu,
sûr.
Oui.
Mais oui. Les grands mouvements sociaux sont parfois enterrés par des questions de météo. Non, mais c'est vrai. Hein. Et ensuite, je sais pas. Le problème, si réellement toutes les routes sont bloquées au-delà d'un week-end, ça risque de se retourner contre eux. Donc il y a quand même comment dire. C'est qui tout double, à mon avis, ce mouvement.
Ouais, Éric Delannoy, est compliqué d'estimer ce qui va se passer demain.
C'est compliqué, et moi, j'ai envie de vous dire que le mouvement est déjà réussi. Parce qu'on en a parlé, il a été mis en exégèse. Je veux dire, il fait la une
est-ce
de
que
tous
vous
les journaux.
Est-ce que vous insinuez qu'on en a trop parlé?
Non, parce que, enfin, ce cri de colère, c'est un cri qu'il faut effectivement entendre et c'est un cri qui est important. En revanche, dire que demain, en fonction de la mobilisation, il sera réussi ou pas réussi, personne ne revendique la propriété de ce mouvement-là. Donc, personne va pouvoir dire il est réussi ou pas réussi. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne sortira dans la rue, qu'on va filmer sur toutes les chaînes de télévision, ça sera réussi. Donc mécaniquement, en revanche, ça sera un échec s'il n'y avait personne dans la rue. C'est-à-dire que l'échec, lui, on peut vraiment le mettre en place. Et le dernier point que je voudrais émettre, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Il y a un cri d'alarme, mais j'entends pas de revendications. J'entends pas grand-chose.
La baisse des taxes.
Non, mais la baisse des taxes,
ça a été dit dès le départ. Hein.
Non, mais bien sûr, mais la baisse des taxes, ça n'a pas beaucoup de sens quand on sait que rationnellement, en fait, 70% de la hausse du pétrole, c'est le prix du pétrole, c'est pas la taxe. Donc, ça compte pour pas grand-chose, en fait.
20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Romain Desec.
Michel Fourniret, Monique Olivier, reconnue coupable d'assassinat sur la personne de Farida Amish, perpétuité pour l'ogre des Ardennes, 20 ans pour son ex-femme. Le couple a planifié le meurtre de la jeune femme afin de voler le trésor du gang des postiches. Le procès n'a pas permis de savoir où a été enterré son corps. En Corrèze, la mère de la petite Serena, elle était condamnée à 2 ans de prison ferme, plus 3 avec sursis. Elle avait dissimulé pendant 2 ans sa fille dans un coffre de voiture. La laissant à l'isolement quasi total, ce qui a entraîné de graves séquelles. Ils ne seront plus sur les tableaux de bord, mais bien sur les épaules. Demain, les Gilets jaunes prévoient de bloquer une partie du pays, un mouvement que soutiennent 3 Français sur 4. C'est ce qui ressort du sondage Odoxa Denso Consulting pour France Info et Le Figaro. Le foot et l'équipe de France qui affrontent les Pays-Bas dans moins de 5 minutes. Les Bleus n'ont besoin que d'un point pour valider leur ticket pour la phase finale de la Ligue des Nations en juin prochain. Digne, Kimpembe et Nzonzi sont titulaires. Et puis va-t-on enfin retrouver la dépouille de Montaigne ? C'est ce qu'espèrent les Bordelais, puisque un cercueil, des ossements ainsi qu'une plaque au nom du philosophe ont été retrouvés dans les sous-sols du musée d'Aquitaine. Le corps de Montaigne, ancien maire de Bordeaux, a connu plusieurs sépultures depuis son décès en 1592.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
On a entendu beaucoup de choses concernant ce mouvement depuis plusieurs jours et certains l'ont comparé au poujadisme de 1953, ce mouvement qui était né politico-syndical d'une contestation, Pierre Poujade à l'époque, contre le fisc, tiens on en parlait tout à l'heure, et contre l'émergence de la grande distribution en France. Est-ce que c'est le bon référent? Nicolas Demorand sur France Inter ce matin a posé la question à Philippe Martinez. Écoutez la réponse du secrétaire général de la CGT.
Il est impossible d'imaginer la CGT défiler à côté du Front National. Enfin, il s'appelle plus comme ça maintenant, mais la vitrine a changé, mais le reste reste le... Enfin, elle-même. Enfin, c'est impossible. Vous avez vu les campagnes du maire de Béziers. C'est absolument scandaleux. Donc, la CGT ne peut pas s'associer avec ou défiler à côté de ce genre d'individus ou de partis politiques. Parce que, on voit, et là, il y a une tentative de récupération. Alors, on peut appeler ça poujadisme. On peut même dire l'extrême droite, tout simplement.
Sophie Caillot, cette vision, peut-être que ce serait l'extrême droite dans la rue, est-ce que vous validez? Est-ce qu'il s'agit d'un raccourci, selon vous? Est-ce qu'on peut vraiment quantifier, qualifier les personnes qui vont aller demain manifester?
Je pense que c'est clairement pas l'extrême droite dans la rue. Et je pense que c'est une tendance qui va être assez marquée de la plupart des partis. Enfin, on l'a vu d'ailleurs, d'essayer de récupérer, en tout cas de surfer un peu sur la vague de la popularité de ce mouvement pour, au final, gagner eux-mêmes en popularité. Mais là, on le voit bien dans cet extrait. Les partis politiques revendiquent, certains partis revendiquent le mouvement et d'autres critiquent les partis qui revendiquent le mouvement. Donc au final, c'est bien que c'est un mouvement qui n'est pas politique et c'est ça qui est le signal fort qui est envoyé face à ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est vraiment des citoyens qui ont réussi à se fédérer et à s'organiser. Enfin, en tout cas, on verra demain si le mouvement est vraiment organisé, mais qui ont réussi à monter une entreprise citoyenne ensemble. Et ça, c'est un mouvement qui est fort et que personne ne sait vraiment comment aborder.
Un brin marcheur dans l'esprit, finalement. On a le droit de plaisanter un petit peu. Éric de Couty, il y a quand même des chiffres qui sont donnés, des données chiffrées que nous donne l'enquête d'Oxa Dentsu Consulting. Alors, les sympathisants du Rassemblement National, 33% de Marine Le Pen, donc, seront surreprésentés par rapport aux sympathisants Les Républicains, 14%, PS, 12%. Mais ce mouvement est sans doute politisé, mais il ne vient pas des partis. Il faut bien le rappeler.
Mais non, il vient pas des partis.
Il vient de la population. Et forcément, certains ont des convictions politiques.
On voit des partis politiques qui courent derrière ce mouvement, qui essayent de le récupérer comme ils peuvent, plus ou moins habilement ou pas. Mais ça me semble être assez... pas grand intérêt aujourd'hui. Parce que là, on voit vraiment, vous disiez tout à l'heure, là je vais être d'accord avec vous, que le mouvement, il avait déjà gagné en quelque sorte. Oui. Parce que c'est un moment qui est profond et qui va diffuser. C'est-à-dire que demain, des millions ou pas des millions, après-demain, parce que c'est quelque chose de profond. Et quand vous disiez aussi qu'on ne sait pas ce qu'ils revendiquent, peut-être qu'on ne sait pas comme dans un dialogue social classique, mais leurs revendications, on les connaît. On les connaît, cette population, ces citoyens de la ruralité ou du périurbain, ben ils demandent une forme de reclassement. Et c'est un traitement politique de fond qu'ils attendent. Donc ça veut dire que le mouvement, au-delà de la manifestation, des manifestations d'aujourd'hui et demain, il va durer, il va diffuser, il va infuser.
Alors justement, le mouvement, faut-il le rappeler, je me tourne vers vous, Éric Delannoy, est parti au printemps, on le sait, des réseaux sociaux. C'est au mois de mai que Priscilla Ludowski avait lancé sa pétition. Personne ne parlait alors des hausses de taxes sur les carburants. Comme tout le monde, je prenais ma voiture, a-t-elle expliqué. Je constatais, je la cite, que le prix de mon plein augmentait sans comprendre pourquoi. Elle est gérante de boutiques en ligne de cosmétiques à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. Et sur change.org, ce soir, je suis allé voir, près de 870 000 clics. Elle espère atteindre le million. C'est quand même quelque chose, c'est quand même une lame de fond, Éric Delannoy.
C'est une lame de fond. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une lame de fond qui est issue d'un déclassement qui date depuis 30 ans et qui a maintenant été documenté sociologiquement. Mais le reclassement dont on parle, il ne va pas prendre un an, il ne va pas prendre deux ans, il ne va pas prendre trois ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un vrai problème de temporalité entre calmer une population qui est très en colère et dont on ne sait pas quelles sont les revendications de court terme, si ce n'est de renoncer à des taxes qui consistent à faire un peu d'immobilisme, quand même. Par rapport à une nécessité de moyen terme, parce que les solutions, on les a. Les solutions, on les a, mais elles sont pas audibles. On les a.
Un exemple.
C'est extrêmement simple. Retravailler la mobilité. Le télétravail, on a maintenant des technologies, mais pour ça, il faudrait réduire la fracture numérique. Le télétravail, a été démontré que le télétravail, c'était bon pour les entreprises, c'est bon pour les salariés, et c'est bon pour tout le monde. Et ça permet de faire des économies.
Tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est l'immédiateté des hausses.
Ah, mais voilà,
l'immédiateté.
Mais le problème de l'immédiateté, c'est qu'on ne sait pas gérer sur des problématiques longues de transition écologique l'immédiateté. C'est toute la problématique de la transition écologique. C'est qu'on ne sait pas y répondre. Et si y répondre, c'est de ne pas faire, personnellement, moi, je soutiens Emmanuel Macron qui veut continuer les réformes en lui donnant leur cohérence et en mettant en place la pédagogie.
Virginie Le Petit, quel est le regard qui est porté hors frontières sur ce mouvement qui se dessine en France?
Alors c'est plutôt nos frontaliers justement qui regardent. Oui, c'est surtout les Belges, et il y a Le Soir qui a consacré quand même donc le quotidien de Belgique.
Qu'est-ce qu'ils disent les Belges?
Ils filent la métaphore de l'incendie ils comparent ce mouvement des Gilets jaunes à un incendie, et ils disent le feu s'est d'autant plus propagé que le terrain était inflammable, le pouvoir d'achat stagne mais pas seulement. Donc ils reviennent aussi sur les mesures qui avaient été prises, les 80 km/h, les limitations de vitesse. Et alors, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, eux estiment, vu de Belgique, que l'extrême droite attise le feu, même si sa chef de file ne prendra pas elle-même part aux manifestations. Donc, et l'autre chose aussi qui est assez prégnante, ils sont assez étonnés, ils trouvent que c'est très atypique, ils sont assez étonnés de l'ampleur et de la colère qui s'exprime aussi spontanément, on va dire, en France. C'est pas les seuls, hein. Les Allemands aussi sont très étonnés.
Il y a eu des mouvements populaires, si mon souvenir est bon, vous me corrigez, en Russie notamment au début des Jeux Olympiques. Les populations avaient critiqué M. Poutine pour la question du rallongement de la durée du travail, les retraites. Il y a des mouvements qui naissent des populations spontanément dans d'autres pays.
Bien sûr qu'il y a des mouvements qui naissent spontanément dans d'autres pays, mais... Comment dire? D'abord, ils sont pas forcés, ils débouchent pas, parce que là, ça se prépare depuis le printemps, vous l'avez rappelé. Donc, ils débouchent pas forcément sur une mobilisation aussi grande. Et surtout, dans des pays, alors, pas la Russie en l'occurrence, hein, mais la Belgique, mais surtout l'Allemagne, les corps intermédiaires en Allemagne sont beaucoup plus puissants. Il y a des relais.
Ah, c'est mieux
et
organisé,
il y a une culture de la négociation et du compromis qui fait que, eux, ce qu'ils voient leur paraît totalement étranger. Les confrontations en France et la façon qu'on a de régler nos problèmes leur sont totalement étrangers, en fait.
Éric de Coty, ça conforte ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et sur le fait que ça démarre sur des réseaux sociaux, c'est assez nouveau, finalement. C'est assez nouveau et c'est assez difficilement cernable pour les décideurs politiques.
Vous savez, ça veut dire aussi que cette population, en tous les cas, ces gens-là, personne ne s'en est occupé, personne ne s'est préoccupé. Ils se sont pris en charge eux-mêmes. C'est-à-dire que les syndicats, les partis politiques, ils les ont abandonnés depuis longtemps. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal à entendre quand vous dites, mais il y a des solutions, il y a le télétravail, etc. Moi, je vais vous dire, ça me fait hérisser le poil un peu, parce que à côté, il y a plus de réseau de communication, il y a plus de réseau de transport. On a vu 200 maires qui sont prêts à renoncer. Pourquoi ils sont prêts à renoncer? Parce qu'ils ont plus les moyens, et c'est essentiellement des élus, des édiles de ces territoires-là, parce qu'ils ont plus les moyens de participer à la vie de leur région. Et ça, c'est un signe profond. Télétravail, pourquoi pas? Mais en tous les cas, c'est pas ce qui va résoudre cette profondeur du mal. On est face à un mal d'une gravité extrême, et il y a des mesures cosmétiques qu'on est en train de proposer pour le résoudre.
Allez,
pour le soigner.
20h50 sur France Info, je sens Éric Delannoy qui frémit sur ma droite. Tout d'abord, le dernier rappel de l'info avec vous, Romain Desec.
La colère, oui. Le blocage, non. Nouvel avertissement du gouvernement à quelques heures du début du mouvement des Gilets jaunes. On ignore encore l'ampleur de la mobilisation. En tout cas, le mouvement est soutenu par une majorité de Français, 74% exactement, selon un sondage Odoxa d'Enso Consulting pour France Info et Le Figaro. Près de 7 Français sur 10 affirment ne pas avoir été convaincus par Emmanuel Macron lors de son interview télévisée mercredi. La perpétuité, de nouveau pour Michel Fourniret, cette fois pour l'assassinat de Farida Amiche en 1988. Son ex-femme Monique Olivier est condamnée, elle, à 20 ans pour complicité. Le couple avait planifié le meurtre afin de dérober le trésor du gang des postiches. Près de 500 secouristes sont à pied d'œuvre en Californie. Ils recherchent désespérément au mieux des survivants, au pire les corps de personnes disparues suite au gigantesque incendie qui frappe l'État américain. Il y a 63 morts et 600 personnes dont on est sans nouvelles. Donald Trump doit se rendre sur place demain. Au Royaume-Uni, Theresa May nomme un eurosceptique au poste de ministre du Brexit, Stephen Barclay. Il succède au démissionnaire Dominic Raab. La première ministre envoie un signal à son camp alors que la menace d'une motion de censure à son encontre est plus que jamais d'actualité. C'est plutôt de bon augure à une semaine de la finale de la Coupe Davis de tennis. Le double français Mahut Herbert s'est qualifié aujourd'hui pour les demi-finales du Masters de Londres.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Du calme, Éric Delannoy, vous allez pouvoir vous exprimer. Tout d'abord, il y a eu cette expression qui est sortie, on évoquait la France périphérique tout à l'heure, c'est désormais passé dans le domaine public. Ce matin, c'est un ministre qui s'est exprimé chez nos confrères de RMC, BFM TV. Le mouvement est-il en train de dépasser son objet initial? C'est la question posée par Jean-Jacques Bourdin. Voici ce qu'a répondu Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics.
On porte un gilet jaune parce que souvent on est accidenté. C'est pour ça qu'on a un gilet jaune dans sa voiture. On est accidenté, on le met, parce que quand on sort de sa voiture, pour attendre le dépanneur, on évite d'une part d'avoir soi-même un accident et pour se signaler aux autres. Que font les Français ce week-end, en partie? Ceux qui mettront un gilet jaune, ils voudront se signaler. Parce que la France, elle est accidentée. Sinon, Mme Le Pen n'aurait pas fait 11 millions de voix. Parce que Macron ne serait pas élu. Et parce que moi, je serais sans doute pas ministre, si c'était le cas.
Sophie Caillot, un ministre du gouvernement qui parle de France accidentée, c'est une sorte de constat sociétal. C'est assez étonnant. On imagine plutôt ce type de regard porté dans l'opposition, finalement.
Je pense que c'est peut-être le symbole, le signe d'une prise de conscience que les Français et les Françaises aujourd'hui se sentent pas tellement représentés par leurs élus, par le gouvernement. Alors bon, sans tomber non plus dans la caricature de voilà, c'est l'élite contre les petits, contre les ruraux. On voit quand même dans tout ce mouvement qu'il y a en effet un sentiment d'absence de représentation et l'absence d'écoute aussi des citoyens par les élus. Et donc là, je pense que ce que nous montre cet extrait ainsi que tout ce mouvement, c'est que peut-être que Emmanuel Macron était avant critiqué, enfin taxé de président des riches. Maintenant, c'est le président des citadins ou le président des bobos parisiens. Et tout le reste de la population se sent accidenté, en tout cas plus incluse dans sa politique.
Et merci Sophie, parce que vous m'avez bien chauffé, Éric Delannoy. Vous avez la parole.
Non, mais
France accidentée, c'est quand même Gérald Darmanin qui le constate.
Non, mais attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Je suis en train de dire que ce n'est pas en un an et demi qu'on va les résoudre. Mais moi, j'ai un peu de mal à entendre qu'on ne s'occupe pas de cette France-là. J'ai un peu de mal à entendre qu'on laisse les territoires en déshérence. J'ai un peu de mal à entendre... Enfin, quand on a enlevé les services sociaux, les hôpitaux, les gares, etc., c'est un mouvement qui date depuis 20 ans, Emmanuel Macron n'y est pour rien. En revanche, qui parle aujourd'hui du plan pauvreté? Plan pauvreté, au moment où il est sorti, on a parlé de l'affaire Benalla. Dans le plan pauvreté, il y a énormément de mesures qui s'occupent de cette France-là. Énormément de mesures sur l'insertion économique, sur la revalorisation des minima, sur la manière dont Emmanuel Macron a essayé de dire qu'il ne voulait
Est-ce que vous reprochez au fond, aux médias, d'avoir feuilletonné l'affaire Benalla?
Alors, ça c'est vrai, on a déjà parlé ensemble, Jean-François. Donc bien évidemment que ça a eu un impact énorme. C'est aussi un impact...
Mais nous avons également évoqué le plan pauvreté, nous avons détaillé largement sur le sujet.
Oui, mais je serais curieux de savoir, parmi les gilets jaunes, quels sont ceux qui sont capables de citer une mesure du plan pauvreté. Je parlerai de la fracture numérique aussi. C'est le premier gouvernement qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus de zones blanches en France. Là où on va enfin pouvoir permettre d'avoir des délocalisations d'emplois dans les campagnes, sans qu'il y ait de rupture de communication. Donc il y a des choses qui se font. On ne peut pas dire qu'on ne s'en occupe pas. Simplement, les effets, ce sera des effets de moyen terme. Et moi, je sens une impatience dans cette colère-là, entre la volonté de qu'il se passe quelque chose et les résultats qui tardent à venir.
Oui, sur la fracture numérique, je ne sais pas si vous avez essayé de faire votre carte grise par Internet, c'est juste impossible.
C'est un chemin, on annonce 2020 pour que ce soit résolu tous ces sujets-là.
Pardon de vous avoir coupé, mais je voudrais que vous répondiez à ce que dit Éric Delannoy, tenez Virginie Lepetit. Vous comprenez le cri de cet économiste qui à la tête d'un cabinet qui essaie au fond de... Mais si, vous êtes en défense, vous êtes parfaitement légitime dans ce que vous dites. Il y a deux visions qui s'affrontent.
J'y participe, effectivement.
Et vous y participez en plus, oui.
Si je me souviens bien, de toute façon, cette France-là, puisqu'on parle de ces deux Frances visiblement qui s'opposent, l'une rurale et périurbaine et l'autre citadine. C'était déjà le cas au moment du deuxième tour de la présidentielle. De toute façon, c'est une France qui n'a pas voté en majorité pour Emmanuel Macron. Que ces gens-là soient impatients, mécontents, ça s'explique aussi de cette façon-là. Et évidemment qu'on veut toujours obtenir tout de suite, en particulier quand il s'agit de pouvoir d'achat et de la façon dont on va pouvoir aller jusqu'à la fin de l'année, bien sûr qu'on veut tout de suite les baisses sur les carburants, que les baisses du carburant lui-même, c'est-à-dire du pétrole, soit immédiatement répercuté sur les baisses de l'essence, ce qui se passe. Mais oui, mais c'était quelque chose qui était très important.
Oui. Éric de Coty, oui.
Moi, je vais vous dire, déjà le mot « accidenté » m'a choqué. Oui, il m'a choqué parce qu'un accident, c'est quelque chose qui arrive généralement par surprise. C'est quelque chose qui est soudain, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et qui arrive. Tiens, on a un accident de la route. Là, c'est tout sauf un accident. C'est une réalité, on est tous d'accord là-dessus, c'est une réalité profonde et ancienne. Oui. Et ce serait parfaitement ridicule de dire qu'Emmanuel Macron en est le responsable.
Il
hérite d'une situation très ancienne, ça c'est une chose. Donc c'est tout sauf un accident, c'est un mal profond. Emmanuel Macron est un jeune politique, mais qui est quand même suffisamment averti des affaires pour connaître la profondeur du mal. Et après, encore une fois, puisque vous parlez de comment on le traite, moi je veux bien d'accord avec vous en disant qu'il se passe des choses, mais ça ne se voit pas, les gens qui sont sur le terrain ne le voient pas, et encore une fois, c'est des populations qui sont coupées.
Éric, la une de Marianne, c'est le mot de la fin.
On les appelle les pulls diesel, parce que c'est ce sentiment de déclassement et de mépris qu'ils ont de la part des élites.
Pour la une de Courrier International, les femmes au pouvoir
partout dans le monde, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, en Éthiopie.
Merci Virginie Lepetit, merci Éric de Couty, merci Éric Delannoy et merci à Sophie Caillot, nouveau visage des informés. Vous revenez, hein ?
J'espère bien.
Allez, pour ma part, je vous dis bonne soirée. À demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info avec Pierre Neveu. Je vous retrouve avec plaisir lundi.